bien notre croissance. Colossiens 2, verset 19. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens, tire. Colossiens 2, verset 19. Tire l'accroissement que Dieu donne. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps tire l'accroissement que Dieu donne. Celui qui fait croître, c'est Dieu. Mais c'est au travers du chef, qui est Jésus-Christ. Sans s'attacher au chef, Jésus-Christ. Ce n'est pas l'attachement à une église qui fait qu'un chrétien croit dans le Seigneur. Quelqu'un peut être attaché à une église et ne jamais croître en Dieu. C'est vraiment l'attachement, attaché, proche, proximité, intimité, avec, non pas l'église, avec la tête, Jésus-Christ. C'est lui la tête, au travers de son Saint-Esprit. La croissance, le pouvoir de grandir nous vient de Dieu au travers de Jésus. Il ne vient pas de l'Église. Parce que si on va dans l'Église, puis on pense que l'Église va nous nourrir, non. C'est pas... L'Église peut peut-être nourrir, donner des paroles, des outils pour grandir, mais c'est moi. Qu'est-ce que je fais de cette parole-là? Si je vais juste prendre la parole, puis moi, je ne m'attache pas à Jésus, j'ai aucune croissance. Je ne grandirai pas en Dieu. Il faut que moi, je m'attache à Jésus. Si je reçois une parole, il faut que je prenne cette parole-là, puis j'aille devant Dieu, puis je m'attache à la parole de Dieu, puis je m'attache à Jésus, parce que c'est Jésus qui peut incruster en moi la vie au travers de sa parole. Mais c'est toujours un attachement à Jésus. Dans Jean chapitre 15, les versets 1 à 7, Jean 15, le verset 1 à 7, ça dit « Je suis le cep et mon père est le vigneron. » Il y a quelque chose de remarquable. Jésus prend l'exemple d'une vigne. Il ne prend pas l'exemple d'un arbre quelconque. Il prend l'exemple d'une vigne. Puis il y a quelque chose de très, 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 très particulier avec la vigne. C'est que la vigne a juste un tronc. Un tronc principal. Puis juste des petits serments. Le tronc, il n'y a pas comme un arbre ordinaire. Tu regardes un arbre, il y a un tronc, il y a des grosses branches, il y a des petites branches, puis des plus petites branches.
Puis des feuilles.
Ça, c'est un arbre ordinaire. Mais la vigne, c'est pas ça. La vigne, il n'y a pas de grosses branches. Il y a juste un tronc, un cep, puis des petites branches. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de grosses branches. En Jésus, il n'y a pas de grosses branches. Il n'y a pas un chrétien qui est plus important qu'un autre. On est tous égaux. En Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus de différence. En Jésus, on est tous égaux. Toutes des petites branches. Puis ce qui fait qu'on vit, puis qu'on grandit, puis qu'on croit, c'est qu'on s'attache au cep, qui est Jésus. Je suis le cep, Jésus dit. Je suis le cep. L'attachement, la proximité. Demeurez liés. Hein? Jésus dit à une place, il dit, ayez vos regards fixés sur Jésus, demeurez fixés à Jésus. Le mot croire en Jésus, certaines versions vont le traduire par le mot adhérer, adhérence, coller, la colle. Se coller, croire, ça veut dire adhérer, coller à Jésus. Pas aux branches. Parce que si vous collez à une branche, il n'y a pas de vie. Si vous collez à une branche, à un autre serment, qui est juste un autre serment, vous ne pouvez pas avoir de la vie d'un autre serment. C'est impossible. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'attachent au pasteur, qui s'attachent à tel ministre, à tel évangéliste, à tel ministère. Mais c'est pas un ministère, un ministre, un pasteur qui va te nourrir, qui va te faire croître. C'est toi devant Dieu. On est responsable, chacun devant Dieu, on a une responsabilité de s'attacher à Jésus. Il dit bien, je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Demeurez attachés au cep. Et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. On est tous des serments. Tous à attacher, à se relier à Jésus. C'est de lui que vient notre vie. C'est pour ça qu'à tous les jours, je dois prendre un temps avec Jésus. À tous les jours, c'est ma vie. Quand je prends un temps avec Jésus, que je m'attache à Jésus dans la prière, dans la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, dans la louange, l'adoration, quand je m'attache à Jésus, je m'approche de lui, c'est automatique. Il y a de la vie qui coule en moi. Parce que le step, il y a de la sève qui coule dans le cep. Puis quand je m'attache, quand le serment s'attache au cep, ben la sève coule de Jésus, du cep, jusqu'à moi. La sève, c'est la vie de l'esprit. C'est la puissance de l'esprit. C'est la force de l'esprit. C'est la sagesse de l'esprit. C'est tout ce que l'esprit va nous communiquer qui appartient à Jésus, mais que le Saint-Esprit va nous communiquer. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, s'il ne s'attache pas à Jésus, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Toute notre croissance, notre vitalité avec Jésus dépend de notre attachement à la tête. Pas à des hommes, comme je disais tantôt. Quand on se confie dans l'homme, il n'y a pas de vie. On ne peut pas retirer une croissance en se confiant dans les hommes, en s'attachant aux hommes. Notre croissance ne vient que lorsqu'on s'attache à Jésus lui-même. C'est lui la tête. C'est à lui qu'on doit s'attacher. Il y a un bel exemple dans Éphésiens. Éphésiens 5. Éphésiens 6, je me suis trompé. C'est Éphésiens 6, les versets 10. 6, chapitre 6, le verset 10. C'est-à-dire, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Où est-ce qu'on va trouver notre force en Dieu? Dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, le Saint-Esprit. Fortifiez-vous. Ça, c'est notre responsabilité. Le pasteur peut nous mettre la nourriture devant nous. Il peut nous aider. Dieu peut donner des ouvriers. Des outils, les ouvriers sont là comme des outils pour nous aider à grandir, faciliter la croissance, mais ce n'est pas eux qui vont faire grandir. Hein, les ouvriers de Dieu sont juste là pour apporter la parole, mais si tu ne prends pas cette parole-là, tu ne la sers pas dans ton cœur, tu ne grandiras pas. Il faut puis que tu développes une relation avec le chef qui est Christ, la tête. Parce que c'est en lui qu'on va chercher notre force. La force est dans la sève qui circule dans le cep. Mais il faut que j'aille me coller à ce serment-là, à ce cep. Puis que je retire de ce cep la force qui vient de Jésus-Christ. Il dit, revêtez-vous, verset 11, de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat, il n'est pas contre les hommes. Il n'est pas contre la chair et le sang. Il est contre les esprits démoniaques dans les lieux célestes. Mais notre force aussi, elle ne vient pas des hommes. Notre force, elle ne vient pas de la chair et du sang. Notre force, elle vient de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est si important de s'attacher à lui, de demeurer attaché à Jésus. Parce que c'est lui notre force. C'est lui seul. J'ai cité tantôt le verset « Malheur à celui qui se confie en l'homme », mais ça dit dans Jérémie « Béni soit celui qui se confie en l'Éternel » et qui trouve en lui son appui. C'est lui qui pourvoit la force nécessaire pour grandir, pour croître. Jésus lui-même, quand il est né, il était sans péché. Il n'avait pas à lutter, il était pur, parfait. Mais Jésus lui-même a dû grandir, croître, s'agrandir, se fortifier par l'Esprit. En Luc, chapitre 3, c'est Luc chapitre 2, le verset 51 et 52. Il est descendu avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus lui-même avait besoin de grandir. Et c'est en son attachement à son Père qu'il grandissait, qu'il s'accroissait. Ben, la même chose est pour nous autres. Quand on vient à Jésus, on lui donne notre vie. C'est vrai qu'on reçoit un nouvel esprit, que toutes choses deviennent nouvelles. Mais ce nouvel esprit-là qu'on reçoit est petit. Il est encore bébé. Il a besoin de grandir en sagesse, en grâce et en stature devant Dieu. Comme Jésus, qui était parfait, qui était sans péché, mais il était petit. Jésus était petit. Il n'avait pas tout à la naissance. Il avait besoin d'aller puiser dans son Père les ressources nécessaires. Parce qu'il n'y avait pas tout. Il avait besoin de grandir lui aussi. Puis c'est la même chose quand on vient au Seigneur, quand on accepte le Seigneur et qu'on est nouveau. Oui, il y a quelque chose de nouveau, complètement nouveau qui commence. On a un nouvel esprit. Mais on est encore juste des bébés. Puis Dieu nous appelle à grandir. Puis c'est notre responsabilité. Parce que Dieu dit, je vais te donner tout ce qu'il faut, mais il faut que tu ailles le puiser. Il faut que tu prennes le temps de te tenir dans ma présence pour recevoir. Il y a une table de festin préparée, mais il faut comme se présenter à la table. Il faut se présenter devant lui puis recevoir, puis manger. Mais il faut être là quand Dieu nous invite à sa table de festin. Mais c'est la même chose pour nous autres. On a besoin de s'approcher de Jésus, de grandir, de recevoir de lui force, sagesse, stature, à son image. Parce que souvent, on prie, on désire des choses devant Dieu, on s'attend à avoir des grandes bénédictions, de recevoir des choses que Dieu a promis, mais on oublie que Dieu a toujours un temps. Pour toute chose, pour toute bénédiction, Dieu a un temps. Puis, comme j'ai déjà prêché une fois, il y a un temps marqué par le Père. Dieu ne peut pas accorder la bénédiction à un bébé, à un jeune qui manque de sagesse. Il ne peut pas accorder des grandes choses à un enfant qui est encore spirituel, mais qui est encore bébé. Cet enfant spirituel a besoin de grandir afin de pouvoir bénéficier des choses que Dieu veut lui donner. Mais c'est la même chose avec nous autres. Dieu demande il y a un temps pour nous bénir, mais dans ce temps-là de nous bénir, il y a toujours quelque chose qui veut nous donner en sagesse, nous donner en grâce, en stature. Il veut former notre caractère. On a besoin de s'approcher de lui pour qu'il nous transforme à son image. Dans 1 Pierre chapitre 3, ça dit au verset 4. Au verset 3, 1 Pierre chapitre 3, les versets 3 et 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parent autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. La richesse que Dieu veut nous voir, la bénédiction que Dieu veut nous donner en tout premier lieu, c'est cet esprit doux et paisible. Cette sagesse au niveau du cœur, cette sagesse au niveau caractère, cette sagesse, comme l'apôtre Jean parle, cette sagesse qui vient d'en haut, pure, pacifique, conciliante, pleine de bonté, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Cette sagesse-là qui fait que un homme comme David a pu être appelé un homme selon son cœur. Un homme comme Joseph a pu être agréable à Dieu. Parce que Dieu avait formé d'abord dans le cœur de David cet esprit doux et paisible. Il avait formé en lui, au travers des épreuves qui sont arrivées dans sa vie, Dieu avait formé un caractère qui lui plaisait, une sagesse qui lui plaisait, un cœur qui lui plaisait. C'est pour ça que Dieu pouvait oindre David après, il a pu l'élever en tant que roi sur son peuple. Parce que Dieu avait d'abord, la première des bénédictions que Dieu veut nous donner, lui, c'est cette sagesse de cœur-là. C'est un cœur qui grandit en lui, en grâce, en sagesse, en stature. Parce qu'il sait que s'il peut nous donner cette grande bénédiction-là, il pourra aussi nous donner toutes les autres. Nous autres, tout ce qu'on veut, c'est la bénédiction finale. On veut, Seigneur, tu m'as promis ça. On veut que le Seigneur nous élève par sa puissance pour qu'on puisse avoir ce qu'il nous a promis. Mais Dieu dit, oui, je vais te le donner. Mais je veux d'abord, je vais être avec toi. Ma puissance va être avec toi. Mais je veux d'abord t'envoyer au désert. Ma puissance va t'humilier, t'emmener dans un chemin d'épreuve, comme j'ai fait avec David, comme j'ai fait avec Joseph, pour former un esprit doux et paisible, qui est la plus grande richesse aux yeux de Dieu. Si tu lis les proverbes, il n'y a rien de plus précieux que la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse qui vient d'en haut-là, Dieu vous nous l'a donné au travers de son esprit, mais au travers de sa propre formation. Si Jésus, qui était parfait, était tout petit, avait besoin de grandir, bien encore plus nous autres. Quand on vient au Seigneur, quand on est de nouveau, même si nos péchés sont effacés puis qu'on reçoit une nouvelle nature, on est juste des bébés spirituels, puis là on a besoin, notre caractère n'est pas formé. On n'a pas cet esprit doux et paisible. Comme je disais en m'emmenant, c'est le caractère de la colombe. La colombe, l'animal, la colombe, cet oiseau-là est doux et paisible. S'il arrive un autre oiseau pour manger ce qu'il mange, il va s'en aller ailleurs. Il ne chicane pas. Cet animal-là ne cherche pas la querelle. Il ne conteste pas. Il y a cet esprit doux et paisible, cette sagesse d'en haut qui est pacifique, pure, conciliante. Cette qualité-là, Dieu veut la donner à chacun de nous. C'est la plus grande bénédiction qu'il veut faire en premier avec nous. C'est nous donner cette sagesse-là parce qu'il sait que le jour où il peut voir en nous cette sagesse-là qui est à l'image de la colombe, ben là, il peut nous élever. Le jour que Jésus a reçu la colombe et descendu sur Jésus et qu'elle est demeurée sur lui, ce jour-là, Jésus a dit que Jésus était envoyé dans le désert et a été revêtu de puissance. Et là, il a commencé à manifester un ministère de puissance. Mais pendant 30 ans, Jésus n'a manifesté aucun signe, aucun miracle, aucune guérison. Jésus passait dans le désert pendant 30 ans. Jusqu'à ce que le caractère doux et paisible de la colombe soit formé en lui. Puis quand la colombe céleste, la colombe de Dieu a vu en Jésus le caractère qui lui ressemblait, doux et paisible, la colombe est venue et est demeurée sur Jésus.
Elle est venue se reposer.
Elle est venue se reposer sur Jésus parce que là, elle a vu un homme vraiment selon le cœur de Dieu. David avait été juste une image, mais c'est vraiment Jésus qui a accompli ça. Jésus était l'homme selon le cœur de Dieu, qui était parfait, qui a grandi en esprit. Et là, l'Esprit de Dieu est venu se reposer sur lui sous une forme de colombe. Puis là, ça dit, là, la puissance, il a été revêtu de la puissance d'en haut. Et là, il a commencé son ministère avec des signes, des prodiges et des miracles. Parce qu'avant ça, c'était plutôt le contraire. Ça dit dans Hébreu que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça dit ça dans Hébreu 2. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire que quand ça parle des choses qu'il a souffertes, ça ne parle pas de la croix en premier. Ça parle de sa vie de tous les jours. C'est là qu'il a appris l'obéissance. Pendant ces 30 ans-là, qu'il était avec son père et qu'il a été conduit dans le désert, il a appris l'obéissance. Son caractère, sa sagesse. Il était formé par Dieu. Il était transformé par le Saint-Esprit. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est quand la croix est arrivée, après son ministère, Jésus avait appris l'obéissance. La croix était difficile, mais Jésus avait appris l'obéissance. Ça fait qu'il a continué à être soumis comme il avait toujours été soumis. Il a continué, puis il a fait la volonté de son Père. C'est dans Hébreux chapitre 2. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est Hébreux chapitre 2. En tout cas, c'est dans ces versets-là, chapitre, verset 9, je crois. Il a été abaissé, nous le voyons, en tout cas, j'ai pas le verset, je vois avec ce que le Saint-Esprit me donne à l'instant, ça fait que j'ai pas les versets écrits dans le livre, là, mais ça dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est une image pour nous autres, que Dieu, nous aussi, veut nous conduire dans le désert, il veut parler à notre cœur, pour former un caractère doux et paisible, à l'image de Christ, à l'image du Saint-Esprit, parce que Dieu veut aussi nous bénir. Dieu a toujours son temps. Il sait, lui, quand le bon temps va arriver. Si Dieu dit, je vais te bénir dans 3 ans, ben... C'est 5?
5-8, hein?
Ah oui? Bien qu'il soit fils, oui, c'est ça. Hébreux 5-8. Bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est ça. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Hébreux 5-8.
Est-ce qu'il peut annuler une bénédiction?
C'est pas son intention, mais c'est sûr qu'il peut annuler une bénédiction. Mais c'est jamais son intention, parce que Dieu, il y a un temps, puis il dit, lorsque, s'il dit par exemple, je vais te bénir, mais dans 3 ans, ça peut arriver, lui il sait, Dieu il sait que, nous autres on ne voit pas, nous autres tout ce qu'on voit c'est, Seigneur, mais tu m'as promis ça dans 3 ans,
c'est long,
ça va être long, qu'est-ce que je vais faire, je vais mourir Seigneur, non, Seigneur ça va être long,
je suis plus capable,
mais Dieu il voit, ce 3 ans-là, là, c'est pas vide. C'est pas vide de bénédictions. Au contraire, c'est plein de bénédictions. Parce que les plus grandes bénédictions que Dieu veut nous donner, c'est un esprit doux et paisible. C'est la richesse d'en haut. C'est le trésor d'en haut. C'est sa sagesse, c'est sa grâce. C'est qu'on nous transforme au niveau du cœur. Prenons l'exemple, ben simple. Dieu promet un homme à une femme, Dieu promet un mari à une femme. Puis il dit, bon, je vais donner un mari. Mais Dieu, lui, a son temps. Il a le temps pour bénir. Puis s'il promet quelque chose, ben, il va l'accomplir, mais en son temps. Mais Dieu sait, lui, s'il promet, par exemple, il promet à une femme, je vais donner un mari. Bon, lui, il sait quand il va donner sa promesse, il va accomplir sa promesse. Mais Dieu, lui, voit que cette femme-là, ce qu'elle a le plus besoin, c'est pas d'un mari. Ce que cette femme-là a le plus besoin, c'est d'avoir un esprit doux et paisible. Parce que ça dit que la femme querelleuse, mieux vaut habiter dans le désert qu'avec une femme querelleuse. Mais c'est vrai. Dieu dit, mieux vaut habiter dans le désert qu'avec une femme querelleuse. C'est qu'à quelque part,
une bonne chose.
Dieu, il veut bénir vraiment de la bonne bénédiction. Parce que, à quelque part, on a à grandir. On n'a pas toujours le caractère doux et paisible que Dieu veut qu'on ait. Fait que Dieu, il va nous emmener à avoir ce caractère doux et paisible-là au travers des épreuves, au travers de la souffrance. Il va nous apprendre, nous aussi, l'obéissance par la souffrance. Mais là, c'est ça, Dieu veut enlever tout esprit de querelle de notre cœur. Il ne veut pas qu'on ait un esprit de querelle. C'est ce qui est vrai pour la femme qui attend un mari. Dieu va lui donner la bénédiction d'avoir un esprit doux et paisible, mais non pas un esprit querelleur. Mais il va faire la même chose avec nous autres chrétiens. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes l'épouse de Christ. Puis quand on se présente devant Jésus, on ne doit pas avoir un esprit querelleur et dire, « Jésus, là, mais tu ne m'as pas dit ça, tu m'as dit ça, puis là, c'est pas correct, mais pourquoi tu retardes ça? » Puis là, on commence à quereller Jésus. Mais on ne doit pas se présenter avec Jésus avec un esprit querelleur, un esprit doux et paisible. Mais c'est pour ça que Dieu, la plus grande des bénédictions, c'est que Dieu nous amène dans le désert au travers de la souffrance et qu'il nous donne cet esprit doux et paisible-là. Parce que c'est juste lui qui peut donner ça. C'est l'image, c'est ce qu'il y a dans le cœur du Saint-Esprit, c'est la nature du Saint-Esprit d'être doux et paisible.
Plus précieux que l'or.
Plus précieux que l'or. Mais il faut s'attendre, il faut recevoir, pour prendre le temps de s'approcher de notre époux Christ, de notre tête Christ, pour recevoir sa croissance qui vient de lui, sa sagesse qui vient de lui. Et quand on va avoir reçu cet esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu, ben là, il n'y a rien qui va empêcher la bénédiction. Parce que là, Dieu va dire, waouh, le Saint-Esprit va venir, puis là...
Elle a mes yeux, les yeux de la colombe.
Dieu, tout est possible, c'est-à-dire celui qui demeure en moi demande ce que tu veux, puis cela va t'être accordé. Si tu demeures en moi, Il y a la condition, c'est que quand on demeure en lui, qu'on reçoit son esprit, tout devient possible. Il n'y a plus rien qui retarde. Parce que dans le temps de Dieu, il n'y a pas de retard. Dans notre temps à nous, dans nos vues à nous, il y a toujours « Dieu, pourquoi tu retardes? Pourquoi tu retardes? » On est toujours en train de penser que Dieu retarde les choses. C'est faux. Dieu ne retarde absolument rien. Dieu a son temps. Il n'est jamais en retard. Il sait d'avance que lui, il va arriver dans 3 ans. Pas avant. C'est comme nous, on dit « C'est tard! » Pourquoi tu retardes? Mais Dieu dit, non, je ne suis pas en retard, je suis juste au bon temps. Parce que là, je vais t'emmener cette bénédiction-là dans 3 ans, mais aujourd'hui, là, j'ai une bénédiction pour toi. Je vais te donner cet esprit doux et paisible. Puis demain, je vais avoir une autre bénédiction pour toi. Je vais te former encore. Puis après demain, je vais avoir encore une autre bénédiction. Fait que Dieu n'est jamais en retard. Il fait à chaque jour juste la bonne chose qui doit être faite. Me former moi d'abord. Non, on voit ça dans Luc, chapitre 18. Luc chapitre 18, que Dieu est jamais, jamais, jamais en retard. Luc chapitre 18, les versets 1 à 8. Mais il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? » Jésus répond, « Tardera-t-il? » Il dit, « Non, je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Promptement, ça veut dire vite, rapide.
Soudainement.
Si Dieu n'est pas tard, il est rapide. Il est très rapide. C'est juste que nous, on ne voit pas les choses comme lui. Nous, on voit juste la bénédiction qu'on atteint dans 3 ans. Mais il faut voir les choses comme Dieu les voit. Que la plus grande des bénédictions, c'est de recevoir son cœur, recevoir sa sagesse, son esprit, d'être formé par lui. Parce qu'on est entre ses mains. Dieu est avec nous dans le désert. Dieu est avec Joseph quand il l'a envoyé en prison. Dieu était avec David quand il a fui devant Saül pour sauver sa vie. Dieu était là. Puis Dieu n'aurait pas voulu que David soit ailleurs que dans le désert parce que c'était la place d'intimité. Dieu voulait avoir un temps d'intimité avec David. Il est obligé de l'emmener là. Puis c'est là qu'il a changé son cœur. C'est là qu'il l'a rendu mature, sage, pour un jour hériter la promesse que Dieu avait dit à David. « Tu vas régner sur Israël. » Mais Dieu savait que si David avait régné sur Israël à l'âge de 17 ans, quand il a été oint par Samuel, il n'aurait pas été prêt. Ce n'est que 30 ans plus tard, que 13 ans plus tard, c'est-à-dire à l'âge de 30 ans, okay, que David a commencé à régner.
C'est quoi l'âge qui
à l'âge de 30 ans, soit 13 ans plus tard, que David a commencé à régner. Parce que là, son cœur était formé, il était prêt à commencer son règne. Ça a pris 13 ans d'attendre. Mais c'est tout dans la parole de Dieu, c'est toujours comme ça. Mais David, tu vois, Dieu promet un enfant à Abraham. Abraham avait 75 ans. C'était déjà pas mal tard.
C'est très tard.
C'était déjà pas mal
c'est
tard.
Presque à la fin, là.
Mais il a dit, tu vas avoir un enfant. Waouh! Mais là, ça a pris 25 ans encore. 100 ans. Abraham,
ça parlait de sa femme.
Oui.
Elle aussi.
Elle aussi, sa femme avait 90 ans. Mais Dieu dit, je ne suis pas tard. C'est ça, c'est parce qu'on ne voit pas les choses comme lui, il voit. Dieu a béni Abraham d'une façon extraordinaire, mais Dieu formait son cœur, parce que Abraham, Dieu dit, marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Ça, c'était quelque chose. Abraham, il ne savait pas c'est quoi être intègre avec Dieu. Mais à l'âge de 100 ans, il savait c'était quoi. Parce que Dieu avait formé. Dieu l'avait béni de cette intégrité qui vient d'en haut, de cette justice qui vient d'en haut, de cette sagesse qui vient d'en haut. Parce que c'est Christ notre sagesse, c'est Christ notre justice, c'est Christ notre sanctification. C'est pas quelque chose qu'on peut former en nous-mêmes à force d'efforts. C'est quelque chose qu'on reçoit dans la présence de Dieu. C'est lui qui nous le donne. C'est son esprit. Mais il faut accepter de se laisser prendre la main et dire, viens-t'en au désert avec moi. Viens-t'en dans la souffrance un peu. Mais c'est jamais au-delà de nos forces. C'est toujours, c'est une bénédiction. Le désert n'est pas une malédiction. Il n'y en a plus de malédiction en Jésus-Christ. Le désert est une bénédiction. C'est un lieu pour nous rendre comme lui. Parce qu'il est obligé de nous maturer. Parce qu'il veut nous bénir. Il veut nous accorder la bénédiction qu'il a dit qu'il allait nous donner dans 3 ans, ou dans 1 an, ou dans 6 mois, ou dans 1 mois. Il veut nous la donner, cette bénédiction-là. Dieu, il est fidèle, puis il dit, je veux te la donner. Mais il est obligé de nous bénir de d'autres choses avant. C'est comme s'il nous revêt, comme ça dit, on a lu dans le verset dans 1 Pierre, c'est une parure. C'est une parure spirituelle. Un esprit doux et paisible.
C'est un
vêtement. Puis c'est ça, avant de nous bénir, Dieu veut nous vêtir de lui. Hein, ça dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. Ben, se revêtir de Jésus-Christ, c'est tout un contrat, parce que Jésus-Christ, il était parfait. C'est son esprit dans sa plénitude. Puis Dieu veut nous revêtir de Jésus afin qu'on devienne comme lui. C'est à la parfaite stature de Christ. La stature parfaite de Christ. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Mais il faut croire qu'il a la possibilité de le faire. Il faut lui laisser notre disponibilité pour que lui le fasse. Parce que c'est lui qui va le faire.
Nous sommes là.
Nous sommes là. Même si je bégaye, là, c'est pas grave.
C'est juste l'absence de Dieu.
C'est ça. C'est Dieu. C'est la même chose avec Moïse. Moïse.
Oui, je faisais ça lui aussi.
Moi, je bégayais. Mais Moïse, Dieu, il met dans le cœur, il dit, tu vas délivrer mon peuple Israël d'Égypte. Tu sais, Moïse avait 40 ans, puis là, il sentait dans son cœur l'appel de Dieu. Oh, je vais délivrer le peuple d'Israël. Il savait que Dieu l'appelait à ça. Puis là, il était tout excité. Il tue un Égyptien. Oh! Oh! Là, il était obligé de s'enfuir pour sauver sa vie. Mais Dieu, tu m'as promis que j'allais délivrer Israël, mon peuple d'Égypte.
Quand?
Il avait 40 ans. Là, il s'en allait en désert, s'est enfui parce qu'il n'avait pas le choix, il fallait qu'il sauve sa vie. Il s'enfuit. 1 an passe, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans. Ah, mais Seigneur, tu m'as oublié. 30 ans, Seigneur, ça y est.
Ça y est, c'est fini.
C'est fini. 40 ans, tout à coup. Mais il ne s'attendait peut-être même plus à ça. Il voit un buisson. C'est quoi ça? Un buisson qui brûle, puis le buisson ne brûle pas. Il y avait un feu sur le buisson, puis le buisson ne brûle pas. Mais c'est quoi ça, Seigneur? C'est quoi? Mais. C'est ça?
Ben, Jésus a passé par le désert. Tout le monde va passer par le désert.
C'est ça? Moïse.
Une bénédiction.
Mais il y a un signe, là. Moïse, quand il a vu le buisson qui ne brûlait pas, c'est l'image de quoi, ça? Un buisson qui ne brûle pas. Le buisson, c'est nous. Le buisson, c'est l'image des hommes,
ouais.
Des femmes. C'est
les
nous.
Les branches.
Qui ne brûle pas. Ça veut dire que le feu de l'esprit est devenu. Il habitait. Était devenu. Il avait commencé à demeurer sur ce buisson-là et ce buisson-là ne brûlait plus. Mm. C'est ça l'image. C'est comme la colombe qui vient sur Jésus puis qui demeure sur Jésus parce que là, elle voit le caractère prêt, mature en Jésus puis elle dit là, t'es prêt. Là, tu t'en vas au désert. Puis après, le ministère de puissance va arriver. Mais ça a pris 30 ans, même pour Jésus. Ça a pris 40 ans pour Moïse. Mais Dieu a un temps. Puis c'est ça, c'est pour pouvoir juste la dernière des bénédictions que Dieu nous a promis, pour voir la première, tout de suite, celle que Dieu nous donne maintenant. Parce que Dieu, ça dit, il y a d'abondante joie devant sa face. Il y a un festin pour nous préparer. La sagesse, la grâce de Dieu, grandir en grâce, c'est un festin continuel. Parce que c'est des cadeaux. La grâce, ça veut dire que c'est des cadeaux Grandir en grâce, ça veut dire grandir en cadeau de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut me faire grandir en cadeau. Il veut me donner des cadeaux. Il y a quelque chose pour moi aujourd'hui. Quand je prends du temps dans sa présence, là, je reçois quelque chose. Je reçois son esprit. Je me nourris, je m'abreuve. Il y a quelque chose qui se passe en moi. Il y a une transformation. Même si je ne la vois pas de mes yeux physiques, quand je... Vous avez passé si vous passez la journée dans la présence de Dieu, peut-être que vous pensez, « Oh là, Seigneur, là, j'ai prié 3, 4, 5 heures, là, puis tu ne m'as pas parlé, Seigneur. » Tu sais, « Oh Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas parlé? » Mais le Saint-Esprit est là. Puis peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte, mais il y a quelque chose qui s'est passé parce que vous avez été dans sa présence. Il y a eu une transformation qui s'est faite au niveau de votre cœur, au niveau de votre caractère. La présence de l'Esprit a le pouvoir de vous transformer. Amen.